La prochaine conférence s'intitule la commune et les femmes. Alors, je crois qu'on l'avait dit ce matin avec Jean-Louis Robert, autant pour le centième anniversaire de la commune de Paris, c'était les hommes qui étaient mis en avant. Bon, des hommes admirables, hein, je ne dis pas, Varlin et compagnie, très bien. Mais là, il n'y avait qu'un livre qui était un petit peu sorti, c'était « Les pétroleuses » d'Edith Thomas. En dehors de ça, on avait surtout des livres sur les hommes. Et là, pour le 150e, on a eu de nombreux ouvrages de témoignages de femmes et sur les femmes et la commune. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, on a, pour nous aider à réfléchir sur cette question, ben, Hélène Hernandez. Hélène est une des animatrices du groupe Pierre Bénard, qui a sorti un livre tout à fait intéressant, Le Nouveau Monde.
Le Monde Nouveau.
Le Nouveau Monde, c'est autre chose, enfin, mais Le Monde Nouveau.
C'est pas le groupe Pierre Bénard, c'est les éditions du Monde Libertaire, très exactement. Avec une préface de René Berthier.
Voilà. Et mais ce qui est très intéressant, c'est que vous trouvez des échos par rapport à ce que Jean-Louis Robert a énoncé ce matin. C'est pour ça que je voulais insister sur ce livre. Et puis, tu animes l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire. Et enfin, Hélène a écrit plusieurs articles dans le numéro spécial du Monde Libertaire consacré à la Commune de Paris. Donc, Hélène,
à moi.
À toi.
Voilà. Donc, toi, tu as dit la Commune de Paris et les femmes. Moi, j'avais intitulé ça « Les femmes et la Commune de Paris », mais peu importe, on va parler de toute façon des deux. Voilà.
Moi, je lis mon texte. Hein.
Alors, je vais commencer par une parole de Louise Michel, puis vous verrez que j'en parle quand même beaucoup de Louise Michel, parce qu'elle nous a quand même laissé ses mémoires. Hein, et voilà, c'est quand même celle qui nous a laissé le plus de traces en tant que femme. On a voulu faire des femmes une caste. Le monde nouveau nous réunira à l'humanité libre dans laquelle chaque être aura sa place. Ce qui est important, c'est que Louise Michel parle des femmes, mais Louise Michel appartient à une humanité qui fait qu'il y a des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées, enfin toutes sortes d'êtres vivants. Comme tu viens de le dire, en cette année 2021, les femmes de la commune sont à l'honneur. Il y a des livres, il y a des CD, il y a même des bandes dessinées. Enfin, plein de publications comme on n'avait jamais eu. Comme tu l'as dit, pour le centenaire, elle n'était pas présente. De rares livres édités chez Maspero, avec la commune de Louise Michel, qui fait toujours référence, bien sûr. Ça, c'était en 71. Et puis, ses mémoires en 77. Avant, il y avait eu Les pétroleuses d'Edith Thomas en 1963. Mais on n'avait rien d'autre, quasiment rien d'autre. Bon, c'est pas mal d'avoir Louise Michel, mais enfin, c'était que la parole de Louise Michel. Et puis, pour les 100. Alors, il y avait quelques ouvrages quand même, mais avec des petits chapitres ou quelques passages sur les femmes. Pour les 140 ans, on va passer 40 ans plus tard. Là, on a des ouvrages qui étaient conséquents, en nombre important. Ils étaient disponibles. Et pourtant, timidement, on a parlé des communardes, donc il y a 10 ans de ça. Cette année, par contre, on a parlé sans arrêt des femmes de la commune. Je vais dire enfin, parce que penser que la moitié de la population n'aurait rien fait, alors que c'est la population qui travaille, qui nourrit toute la famille aussi, hein, et qui, et là on va le voir avec tout ce que nous a dit Louise Michel et d'autres, était en première ligne. Et donc moi je repense à d'autres choses beaucoup plus actuelles. Comment les mouvements de femmes précaires nous font penser aux blanchisseuses de la commune, pour reprendre la thématique du spectacle « Il faut venger Gervaise ». Des femmes de chambre dans plusieurs hôtels de prestige se mobilisent et gagnent, par exemple au parc Yacht ou au Batignolles. Des femmes de sociétés de nettoyage se mettent en grève et gagnent, comme à Sorbonne Université, sur le site de Jussieu. Des aides-soignantes dans les maisons de retraite et dans les EHPAD se mobilisent aussi. Des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, de même. En fait, les plus précaires, aux salaires les plus bas, aux contrats en trou de gruyère, c'est elles-mêmes qui le disent, discriminées, harcelées, humiliées, les premières de corvée, mais les premières oubliées. Et si les femmes baissaient les bras, eh bien, c'est une parole africaine, le monde s'écroulerait. C'est le sens aussi de la grande grève des femmes qui sévit en Suisse depuis plusieurs années, en référence à cette première grève en 1991. Et puis, on ne va pas parler de l'Espagne, l'Amérique latine et bien ailleurs, où les femmes ne se taisent plus. Au XIXe siècle, par contre, les femmes ne sont pas encore reconnues socialement. Elles dépendent du père ou du mari, à tout point de vue. Quand les juges du Conseil de guerre demandent à Louise Michel d'avouer qu'elle a agi sous l'emprise d'un homme dont elle serait amoureuse, c'est évidemment mal la connaître. Elle répondit qu'elle n'avait qu'une passion, celle de la révolution. J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Et si les communardes sont de tous les combats, elles ne se sont pas trompées, tant elles n'ont rien à perdre. Elles vont agir résolues, déterminées, en conscience, pour la commune. Elles se battent jusqu'à la mort. Elles donnent leur vie non seulement pour le droit à la liberté, à l'égalité avec les hommes et à la justice sociale, mais leur lutte est conditionnée à la fin de l'exploitation et de la domination des uns par les autres. Ça, c'est leur parole aussi. Dans le livre « Les femmes ou les silences de l'histoire », Michel Perrault montre à quel point l'histoire au long des siècles a été écrite par les hommes et pour les hommes et pour les puissants. Les femmes ont été tenues au silence, infériorisées au point d'être mineures, même quand elles étaient majeures. Elles n'écrivent pas l'histoire, la grande histoire avec un grand H. Pourtant, l'héritage se construit autant avec l'histoire écrite qu'avec les histoires vécues. Mais peu à peu, c'est vrai que les femmes ont investi les interstices de l'espace public. Au XIXe siècle, la commune fut un de ces moments d'affirmation des femmes et de surcroît des femmes en armes. Pas toutes, bien sûr, mais elles ont pris les armes, elles étaient capables de les prendre. C'est une période de visibilité qui reste dans notre imaginaire et notre réalité 150 ans plus tard. D'autant plus accessible que la photographie avait fait son apparition. Dans la deuxième moitié du siècle, et les photos de Appert, alors Appert, ils sont deux, c'est deux frères, et comme ils signent avec un E, Appert, et que tous les deux s'appellent avec un E, comme première initiale de leur prénom, on ne sait pas qui c'est, mais bon, en tout cas, on va dire à pair, comme ça, on ne se trompera pas. Ils ont fait plus de 4000 portraits photographiques de communards et de communardes. À pair, qui était au service, évidemment, de l'identité judiciaire des Versaillais. Mais autre source importante, bien sûr, c'est les rapports de police, mais c'est les écrits des communards d'elles-mêmes, et notamment le récit de la commune par Louise Michel. En fait, on voit apparaître une force collective des femmes en tant que sujet, individu à part entière, citoyenne et actrice politique. Et ça, dès 1870. Mais comme l'a dit Claire tout à l'heure, ou d'autres, c'est aussi les héritières de la Révolution française et des révolutions, entre la Révolution française et puis 1870. Elles bénéficient de cette culture républicaine du siècle des Lumières. Mais la France, des pays des droits de l'homme, a oublié délibérément la moitié de sa population lors de la Révolution française, et notamment le Code civil de 1804 qui consacre l'incapacité juridique de la femme mariée et confine la femme dans un état de minorité à vie. Dans l'article 2013, le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
C'est abrogé. Hein.
C'est abrogé, pas dans toutes les régions du monde.
Et pas dans toutes les têtes.
Et pas dans toutes les têtes. Je crois que c'est aussi déterminant ce code napoléonien, parce que les femmes, elles se satisfont pas du tout de ce code. Et elles vont chercher donc d'autres voies possibles pour l'amélioration de leurs conditions. Et elles vont choisir, beaucoup d'entre elles, l'éducation des filles. Commencent à arriver des institutrices. Et sous la Seconde République, avec la loi Fallou, puis après la loi de Ruy, eh bien, on voit qu'on va avoir des écoles. Il y avait déjà des écoles de garçons, mais il va y avoir des écoles de filles. Hein, et c'est un seuil de 500 habitants qui détermine une école. Donc, on voit qu'on est à une toute petite échelle. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir des écoles dans toute la France. Mais évidemment, ce n'est pas le même programme pour les garçons que pour les filles. Je rappelle que Julie Victoire d'Aubier sera la première bachelière en 1861 à Lyon. Elle obtiendra une licence S-lettres à la Sorbonne après la Commune, en octobre 71. Elle est l'autrice de « La femme pauvre au XIXe siècle », qui a été publiée en 1866. Emma Chenu, une autre bachelière, elle a obtenu son bac en 1863 et elle sera la première licenciée sciences mathématiques en 1868. Donc on voit bien que là, on a déjà des femmes avant la Commune qui sont institutrices, qui sont bachelières et qui ont obtenu une licence ou vont l'obtenir. L'enseignement primaire d'alors comprend un programme religieux conséquent et diffère de celui des garçons. En 1862, Elisa Lemonnier crée la Société pour l'enseignement professionnel des femmes et ouvre plusieurs écoles à visée professionnelle. Malheureusement, ce sont des écoles qui sont payantes encore à ce moment-là. Et l'enseignement secondaire ne sera ouvert aux filles finalement qu'en 1880. Dans ses discours, André Léo remet en cause elle aussi le code législatif hérité de l'Empire, qui assujettit donc totalement la femme à l'homme. C'est donc à partir de ces années 60 que le mouvement féministe, même s'il ne porte pas ce nom-là, hein, puisque le terme féministe n'apparaîtra que 20 ans plus tard, en tout cas le mouvement commence à se développer. Des idées, des revendications se formalisent collectivement au sein d'associations qui visent l'égalité des sexes, l'émancipation des femmes. La presse aussi est mise à contribution. Les termes féministe et féministe ne seront affirmés qu'en 1882, particulièrement avec Hubertine Auclert. En tant que mouvement, donc, et qui est défini à ce moment-là comme ça, mouvement pour acquérir des droits, l'égalité des sexes, pour être sujet à part entière. Rappelons-nous Gustave Le Français, qui évoque dans Études sur le mouvement communaliste à Paris en 1871, une réunion en soirée près de la République. Il y a des anciens de 1848, il y a des vieux orateurs bien chevronnés, il y a des jeunes ouvriers de la section AIT, il y a des réfugiés de Londres, de Bruxelles, de Genève. Le sujet qui les préoccupe à ce moment-là, c'est le travail des femmes et les moyens de faire augmenter les salaires. Pendant deux mois, c'est long, hein, ce thème va être traité. Avec des exposés méthodiques, des statistiques. Et là, c'est en mixité. C'est pas que des femmes, c'est femmes et hommes hein, qui discutent de cela. Et puis, Briones, qui est feuillagiste, va sortir citoyen, citoyenne, à chaque fois qu'il va parler. Et c'est ça qui va être un peu le moment de ralliement. Ça veut dire qu'on ne parle plus que des citoyens, mais on parle aussi des citoyennes. Le ton révolutionnaire est donc donné. Et on va avoir tout un vocabulaire hein, qui va remplacer le « mesdames, messieurs » de la bourgeoisie. C'est un signe, évidemment, hein, pour des femmes et des hommes libres, avec des clubs qui se constituent et qui vont être les écoles du peuple. Et à chaque fois, on crie « Vive la commune !» pour ouvrir et fermer les séances. Les clubs, c'est les Batignolles, c'est Charonne, c'est Belleville, c'est Villette. Bon, on voit bien que c'est le nord de Paris et que évidemment, c'est sûrement pas l'ouest ni du côté de Versailles. Hein. Les orateurs et oratrices sont ambulants. Ils circulent d'un club à un autre. Ils cherchent à les fédérer aussi, les clubs, avec pour objectif une fédération par arrondissement. Et la section de l'AIT, je vous le rappelle, comportait 50 000 membres au printemps 1870. Et c'est parmi ceux-là qu'on choisira ceux qui constitueront les premiers comités de vigilance. Alors, du côté des associations et publications de promotion des droits des femmes en France, on peut citer Léon Richer, qui a été l'auteur d'un ouvrage, « Les droits de la femme », paru en 1869, la même année que la revue « Les droits des femmes » qu'il fonde. Mais on peut aussi citer André Léo, qui est romancière, journaliste, anarchiste, et qui fait paraître plusieurs romans dans lesquelles elle décrit la vie difficile des femmes. Elle réalise aussi des reportages sur le travail. Elle plaide pour des associations ouvrières. Elle adhère à l'AIT et en 1866, elle crée l'Association pour l'amélioration de l'enseignement des femmes. On revoit à nouveau cet enseignement, cette éducation qui fait encore beaucoup défaut. Elle fait partie donc de ces féministes qui veulent développer l'enseignement des femmes et en améliorer tant le contenu que les méthodes et la finalité. L'éducation visait alors l'apprentissage de la lecture pour lire la Bible et pour l'exercice aux tâches domestiques afin de bien tenir son foyer et être une bonne épouse et mère. C'était ça, l'éducation. Avec 18 autres femmes, dont des internationalistes de Puteaux, elle rend public en 1868 un manifeste en faveur des droits des femmes et forme la Ligue pour les droits des femmes et elle va se consacrer à la diffusion d'une revendication des droits civils. André Léo est très lié à Noémie Reclus et aux deux frères Élie et Élisée Reclus. Et c'est chez Noémie Reclus qu'elle va créer avec elle, en 1869, la Société de revendication des droits de la femme. Et c'est une société qui est mixte. C'est avec elle qu'elle projette la création d'une école primaire laïque de jeunes filles. Quant à Maria de Rheim, qui est libre penseuse, elle cofonde avec Paul Mink, Louise Michel, Léon Richer, la Société pour la revendication des droits civils des femmes. En 1870, Maria de Rheim crée aussi avec Léon Richer l'Association pour le droit des femmes, dont elle est présidente. Et enfin, de cette période de l'Empire, elle soutient activement le groupe de Louise Michel, d'André Léo et d'Élisée Reclus visant à l'instauration d'une éducation pour les filles. C'est dans cette période que la dénonciation de l'exploitation du travail des femmes et du salaire indécent, qui équivalait à l'époque à la moitié de celui des hommes, aujourd'hui c'est le quart, euh, Un quart en moins, oui. Un quart, oui. Oui, la moitié de celui des hommes, et aujourd'hui, c'est un quart en moins de celui des hommes. Alors, des revendications comme cette dénonciation de salaire très bas, l'éradication de la prostitution, qui était un phénomène à l'époque important et qui se développe évidemment du fait de la misère économique. Et ce sont les priorités qui vont émerger. Donc, pour ne pas vous parler de tout ce qui s'est passé, parce que les femmes ont été présentes à tous les moments, donc je ne vais pas vous parler, après la défaite de Sedan, vous le retrouverez évidemment dans le livre édité.
Dans les actes du colloque.
Voilà, dans... Voilà, on va passer à la phrase d'André Léo qui nous dit « Savez-vous comment s'est faite la révolution du 18 mars ?» Par les femmes, et elle exagérait à peine. Parce que ce qu'on n'a pas encore vu là jusqu'à présent, c'est comment les femmes ont investi la butte Montmartre. Et ça nous fait penser à comment elles ont lancé la grève en 1917, en février, mars 17, comment ce sont les femmes qui ont lancé la révolution russe. La même chose, hein. Il y a 6000 soldats qui viennent récupérer les canons sur les hauteurs de Montmartre, 6000. On parlait de 3000 tout à l'heure, soldats. Là, il y en a 6000 hein, qui arrivent sur une zone en hauteur. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Hein. Eh bien, les femmes, parce qu'elles étaient levées très tôt le matin, parce qu'elles allaient chercher du lait, parce qu'elles allaient chercher à manger, elles étaient de bonne heure. Et elles entendent la rumeur, leur dit... que les soldats vont venir chercher les canons. Eh bien, elles vont converger, y compris avec leurs enfants. Elles vont converger. Et là, c'est elles, on parlait tout à l'heure avec Claire de crosse en l'air, mais c'est elles qui vont dire la même chose aux soldats et qui vont permettre eh bien, de fraterniser avec ces soldats qui vont effectivement... ne pas utiliser leurs armes. C'est énorme ça, parce que on s'attendait pas à ça dans un moment aussi fort de manifestation. Mais il faut dire qu'il y avait eu des tas de manifestations de femmes avant. Hein, j'ai passé là-dessus, mais très très nombreuses. Et le 28 mars, au moment où la commune est déclarée, c'est 200 000 citoyennes qui se déplacent et citoyens sur la place de l'Hôtel de Ville. Mais on peut penser que c'est la moitié de la population dans ces 200 000 qui sont des femmes.
Est-ce qu'on peut dire que c'est magnifiquement relaté dans le bouquin de Louise Michel, La Commune ?
Oui.
Ces pages-là sont très belles.
Oui. Alors, du coup, c'est encore Louise Michel qui nous dit, comme des lionnes, hein, Louise Michel qualifie l'implication et l'ardeur des femmes sur les barricades. C'était des lionnes, dit-elle. Et durant les 72 jours, les femmes participent au combat. Alors, certaines en uniforme, avec armes à la main. Elles vont être ambulancières, cantinières, barricadières. Elles étaient déjà présentes, évidemment, en 1830. Déjà en 1830, certaines étaient habillées en hommes, hein. De même en 1848. Mais en 1871, la différence réside dans le fait qu'elles réussissent à faire des bataillons de femmes et elles tiennent même des barricades en tant que bataillons de femmes. Celle organisée par Elisabeth Dimitrieff, Place Blanche, est entièrement tenue par des communardes. Une cinquantaine. Celle dirigée par Nathalie Lemel, relieuse, sur la place Pigalle, est aussi très féminisée. Et un bataillon de femmes dans le 12e arrondissement a pour porte-drapeau Catherine Rogissart, qui est aussi vice-présidente du club Éloi. Ce sera par ailleurs la dernière survivante déportée au bagne de Nouvelle-Calédonie. Plusieurs communards seront arrêtés avec un pantalon, sans toutefois faire vraiment partie de la garde nationale. Le pantalon étant interdit aux femmes, le porter était une transgression qui marquait sans doute une revendication d'égalité, mais on peut aussi penser que c'était plus pratique pour les combats. Louise Michel évoque dans ses mémoires de très nombreuses femmes, je ne vais pas les citer toutes, ce sont toutes ses camarades de Montmartre, mais aussi Victorine Brochet-Rouchy, qui ramasse les blessés, ou encore Victorine Eude, à Issy, les Moulineaux. Louise Michel parcourt Paris et la banlieue, sur les barricades des quartiers nord de Paris, à Issy, à Montrouge, dans les tranchées de Clamart. Paul Mink parcourt, elle, les régions pour informer le peuple de France sur les événements parisiens. Même les femmes se déplaçaient dans les différentes régions de France. La commune, c'est aussi l'espoir, évidemment, de réalisation concrète. Les femmes sont dans les comités de vigilance jusqu'à la semaine sanglante. Elles pétitionnent pour remplacer les religieuses dans les hôpitaux et les prisons par des mères de famille. Elles prennent leur place non seulement en visant à avoir les mêmes droits que ceux des hommes, mais aussi en questionnant les relations de pouvoir dans leur ensemble. En finir avec la représentation de la femme mineure et de l'esclavage sexuel inhérent à la dépendance conjugale. Par exemple, revendiquer le droit au divorce, se libérer du mariage contraignant, lutter contre la prostitution réglementée par l'État. La commune visant la séparation de l'Église et de l'État, mesure prise donc le 2 avril, pouvait répondre à ces revendications tant sur l'autodétermination du corps que sur l'éducation des filles. Ainsi, dès mai, les maisons de tolérance sont fermées dans tout le 11e arrondissement. Malheureusement, ce n'est que dans le 11e arrondissement. Et puis, ça ne va pas durer, bien sûr. Et ça, c'est en comparant avec la traite des Noirs. Il paraît urgent de supprimer l'odieux trafic des marchands d'êtres humains et l'exploitation commerciale qui en est faite. La société est responsable et solidaire des désordres engendrés par la prostitution, disent les textes. Et les textes, vous les retrouvez, y compris dans l'exposition ici, puisqu'il y a plusieurs panneaux avec des textes de femmes. La cause réside dans le manque d'instruction et de travail, et le remède doit être l'organisation respectueuse du travail des femmes. Le bureau des mœurs est donc fermé au nom de la liberté des femmes. Elisabeth Dmitrieff demande que dans chaque mairie soit donnée une salle pour des citoyennes prêtes à servir aux ambulances et en cas de besoin aux barricades. Des cotisations sont prélevées pour donner aux indigentes des vivres, des vêtements, du travail, mais aussi l'achat d'armes pour les combattantes. L'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés est mise en place le 11 avril. C'est Nathalie Lemel et Elisabeth Dmitrieff qui gèrent cette union, avec beaucoup de femmes, bien sûr. L'Union est une section féminine française de l'Internationale. Citoyenne de Paris, descendante des femmes de la Grande Révolution, nous allons défendre et venger nos frères, et si nous n'avons ni fusil ni baïonnette, il nous restera des pavés pour écraser les traîtres, disent-elles. Citoyenne, l'heure décisive est arrivée, que s'en soit fait du vieux monde. Nous voulons être libres. L'Union comportera 6000 membres. Elle organise des ateliers pour assurer du travail aux femmes dans divers corps de métier, brosserie, chemiserie, broderie, montage d'éventails, chauffeuse de verre, typographe, bandagiste, fleurs et plumes, cravatière, brochures en librairie, habilleuse de poupées, etc., etc. Elles ouvrent aussi des comptoirs de vente pour les produits fabriqués et des délégués sont nommés pour constituer la chambre syndicale des travailleuses. Non seulement des femmes accèdent à des emplois, mais il n'est fait aucune différence dans le paiement avec les hommes, comme il était déjà d'usage entre les relieurs et les relieuses. Elles sont aussi indifférentes au droit de vote. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'assemblée, hormis les clubs, où elles sont représentées. Ce n'est pas leur propos. Et ça, c'est ça, c'est avec des femmes comme Louise Michel et Paul Mink. Voilà, au moment de la Commune, enfin, on a des écoles qui vont ouvrir. Enfin, les religieuses vont pouvoir aller faire autre chose que d'enseigner aux enfants. Et ça permettra à certains professeurs de ne plus prêter le serment d'obéissance. Vous savez que Louise Michel l'avait refusé. Alors, je vais peut-être conclure. Hein. J'avais encore plein de choses à vous dire, mais vous le retrouverez, bien sûr.
Toutes ces choses auxquelles vous échappez, entre guillemets, vous les retrouvez dans le colloque et aussi dans le numéro spécial du Monde Libertaire consacré à la Commune. Tu as largement développé sur ces questions.
Oui, et puis aussi dans le numéro spécial Casserole sur la Commune. Mais quand même, je voudrais parler au moins des pétroleuses. Hein. Mmh. Bon, vous savez très bien que les pétroleuses n'ont jamais existé. C'est quelque chose qu'on a inventé pour dominer les femmes. C'est toujours avec le pétrole, c'est l'image du feu, de la même façon qu'on avait pour la figure des sorcières, la symbolique du feu. Et qu'on avait aussi la symbolique de la nuit, hein, parce que les pétroleuses, paraît-il, c'était la nuit, comme les sorcières, c'était la nuit. Hein, voilà. Les communardes appartenaient à toutes les catégories de la population, mais surtout, c'était des femmes du peuple qui exerçaient tous les petits métiers du textile, tous les petits métiers de la préparation et de la vente alimentaire. Et il y avait évidemment quelques institutrices ou d'autres comme Elisabeth Mitrieff qui était, elle, de l'aristocratie émigrée. Elles furent plus de 10 000 à combattre, issues des faubourgs ouvriers. Et quelques chiffres pour terminer. Sur les déférés au Conseil de guerre, on se demande comment d'ailleurs des femmes peuvent être déférées au Conseil de guerre vu qu'elles elles n'ont pas le droit de faire la guerre, elles n'ont pas le droit d'être des soldates, on se pose la question. Sur les déférés au Conseil de guerre, on compta 756 ouvrières, 70 qui travaillaient dans le commerce et 4 institutrices. On pense que la part des enseignantes est minorée, d'ailleurs. Et parmi les 1051 femmes emprisonnées, on avait des cantinières, des ambulancières, des soldates. Seules 221 étaient mariées. Et c'est là qu'on dénonce, évidemment, les ravages du concubinage, la démoralisation... Et la débauche de la classe ouvrière et qu'il faut vraiment réglementer la prostitution. Voilà. Eh bien, je pense que ces femmes nous ont laissé des graines qui ont été semées au vent. Et ce sont ces graines que nous avons vues fleurir à certains moments et que nous revendiquons aujourd'hui pour être encore, nous, les femmes, dans la rue, à ne pas nous taire et avec le poing levé. Voilà.
Merci Hélène. On va passer aux questions. Donc il y a Frédéric qui peut vous passer un micro si vous souhaitez intervenir. Voilà, donc Frédéric est en train d'escalader. Voilà, il est arrivé au point de la parole.
Alors, c'est pas vraiment une question, c'est juste un petit rappel. Je pense pense que Claire Ozias sera d'accord avec moi. Le, par rapport à la capacité d'organisation des femmes à lutter antérieurement à la Commune de Paris, je parle de la grève des ovalistes en 1869 à Lyon, où en autogestion totale, elles ont organisé leur grève et elles ont lutté. Ensuite, par la suite, malheureusement, si on peut dire, après leur adhésion en bloc à l'AIT, les hommes de l'AIT ayant pris la commande des revendications, elles sont quelque peu fait avoir après. Mais bon, elles n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient. Mais bon, en termes d'organisation féminine autogestionnaire de leur lutte, c'est à ma connaissance l'exemple le plus frappant de cette période. Et sinon, par rapport à Victorine Brochet, dont tu parlais tout à l'heure, qui a commencé la commune en participant à l'insurrection du 18 mars et qui l'a fini à la barricade de la rue Axo, il faudrait quand même citer son bouquin. Alors, je ne sais plus si c'est Souvenir ou Mémoire. Souvenir d'une morte vivante, oui. Et qu'on peut encore trouver si on cherche bien.
Voilà, comme le livre de Claire Ozias a été republié récemment sur la grève des ovalistes, que vous pouvez aussi trouver, d'ailleurs.
Oui, je voulais avoir un petit peu plus de précision sur sur justement ces pétroleuses, parce qu'il y a eu une exposition aux Archives nationales il y a quelques années qui s'appelait Présumé coupable. Fort intéressant, donc qui faisait effectivement le focus sur la façon dont les femmes, en fait, depuis la Renaissance, sur les sorcières, qui a été beaucoup repris par les mouvements féministes ces 10 dernières années. Tout ça est très frais, tout ça est très récent. Cette révolution, elle est très récente aussi, des dernières décennies sur ces questions-là, et qui reprenait effectivement comment on stigmatisait, comment les femmes, systématiquement, dès qu'elles sortaient un peu du rang, on les remettait à leur place et on les brimait. Pourquoi on leur a attaché, au moment de la Commune, cette idée que c'était des pétroleuses qui mettaient le feu. Voilà, comment c'est sorti. Je crois que tu évoquais, Hélène, un livre là-dessus. Peut-être qu'effectivement, ce serait intéressant que je le lise, pour voir comment ça a été récupéré, pourquoi effectivement on a utilisé ce terme-là à leur encontre, et dont on parle encore aujourd'hui. Hein, j'interviens dans les secteurs d'éducation nationale, où personne ne connaît cette histoire chez les jeunes, mais justement, c'est une façon aussi de leur réexpliquer ce qu'était l'histoire d'une autre version.
Alors, Edith Thomas, son livre sur les pétroleuses a été réédité aussi. Hein, il était sorti en 1963 et chez Folio, il est ressorti en livre de poche. Donc, ça, c'est un livre tout à fait accessible. Et sinon, il y a Fanny Bunion, qui a écrit La pétroleuse, ennemi public, justement dans l'ouvrage consacré à l'exposition Présumé coupable. Hein. Et Fanny Bunion, c'est une analyse plus moderne, hein, plus récente évidemment, sur qu'est-ce que ça veut dire quand on traite les femmes qui manient le feu finalement, hein, le feu et la nuit. C'est vraiment les deux choses ensemble qui nous font penser que des sorcières, on est arrivé aux pétroleuses. Et c'était très bien montré d'ailleurs dans l'exposition aux archives, hein, comment on passe de l'un à l'autre. Parce que le feu, ça fait peur, de toute façon. La nuit, ça fait peur aussi. Donc, si on veut diaboliser, avec des guillemets, des gens et on veut en faire des terroristes, eh bien, on n'a qu'à les affubler d'actes par le feu et l'heure de la nuit. Voilà. C'est ce phénomène-là qui fait du lien entre les pétroleuses et les... Mais il n'y en a aucune qui a été condamnée pour avoir mis le feu. Aucune. Ça, c'est... On n'a jamais retrouvé une condamnation. Hein.
Voilà, donc, il y a encore une question, je crois, Frédéric, non ?
En fait, c'est deux questions, mais l'une est assez rapide. C'est à propos de cette série de photos des frères Adjé, là, dont tu as parlé.
Appert.
Appert. D'abord, bon, j'en ignorais l'existence, ça doit être génial. Est-ce qu'elles ont été publiées quelque part, le sais-tu ? Et elles figurent au musée Carnavalet, d'accord. Et est-ce qu'on sait la proportion de portraits de femmes qu'il y a parmi ces photos ? Et voilà, l'autre question, c'était, tu as parlé des clubs féminins, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il existait, enfin, qui cherchait à se fédérer ou qu'on avait essayé de fédérer sur Paris ? Est-ce qu'il existait aussi des formes d'organisation plus mixtes ? Et est-ce que dans les organes dirigeants de la commune, les femmes ont eu le droit d'expression, de vote et même d'être élues ?
Alors non, les femmes n'ont pas eu le droit de vote et ça n'était pas leur priorité aussi, il faut le dire. Donc elles n'ont pas été élues, pas droit de vote, pas élues. Après, sur les clubs, effectivement, il y avait des clubs de femmes. C'était la seule façon qu'elles avaient de se retrouver entre elles sur des questions qui les concernait, mais il y avait des clubs mixtes et Louise Michel a fait partie de clubs mixtes. Louise Michel a fait partie de plusieurs clubs, il y en avait où il n'y avait que des femmes et d'autres, c'était mixte. Et sur les photos, toutes les femmes qui sont parties au bagne, toutes les femmes qui ont été condamnées ont été photographiées, mais je vous ai donné des petits chiffres parce que finalement, il y a eu... Je ne parle pas des fusillés, parce que là, elles ont été fusillées comme les hommes. Hein, quand ils tiraient, ils ne regardaient pas si c'était un homme ou une femme. Donc, elles ont été fusillées de la même façon. Hein. Mais là, on n'a pas forcément des photos. Mais ce sont des petits nombres de celles qui ont été déférées au Conseil de guerre et qui ont été condamnées. Mais toutes, elles ont été photographiées. Et c'est comme ça qu'on a pu faire du lien avec les mémoires de Louise Michel. Voilà, parce que Louise Michel aussi, elle a eu accès à ces photos. Les photos, pour te dire, c'était hyper important. Un, parce que les communards les achetaient pour faire de la propagande. C'était pas simplement que les Versaillais qui les gardaient pour les dénonciations. Hein. Et deux, Appert, c'était un type qui était très très malin parce que lui voulait faire du fric aussi. Hein. Et il a fait des montages de toutes pièces où il a pris les photos et puis les a mis dans des endroits où peut-être les gens ne se sont jamais rencontrés, mais ça fait rien. Lui, il les a mis. Hein. Il y en a où ça correspond à peu près. Voilà. Mais il a fait des montages et ça, il les vendait.
Voilà, on va donner un petit mot à Claire et puis après, on va passer à une pause musicale. Juste.
C'est juste un tout petit point de précision. À ma connaissance, la barricade des femmes de la rue Blanche est une légende. D'après l'historien de référence Robert Toms, dans son livre « La guerre contre Paris », il nous dit bien que c'est une légende. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y a, comme tu l'as bien dit en effet, des femmes sur les barricades en mouvement mixte, comme a dit le camarade tout à l'heure. C'est-à-dire, elles sont mélangées à toute la population. Elles participent bien sûr à toutes les barricades, mais là, celle de la rue Blanche, il semblerait que ce soit une légende. Voilà, c'est tout.
Voilà, donc on verra bien si c'est légende, réalité ou histoire. Je crois qu'on est sur Radio Libertaire, c'est cela ?
Oui, nous sommes bien sur Radio Libertaire, la radio de la fréquence 89.4, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et maintenant, nous allons faire une pause musicale d'environ 15 minutes et vous pourrez reprendre l'écoute du colloque par la suite.
Voilà, donc 15 minutes de pause et puis on parle éducation.